Bonsoir, soyez les bienvenus. Ça va comme ça? Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois ce soir et ne sait pas de quoi nous parlons? Bonsoir. Bonsoir. Alors, on pourra vous donner à la fin un résumé des dernières réunions pour que vous puissiez vous mettre dans le bain. Si vous le voulez maintenant, vous pouvez aussi l'avoir. Il est à votre disposition. Parce que ce soir, je ne vais pas, comme je le fais habituellement, reprendre, résumer tout ce que nous avons vu depuis la première fois. Je vais simplement reprendre à partir de la dernière fois, mais pas depuis le tout début. Donc si quelqu'un d'autre encore est là pour la première fois, eh bien, on a mis tout ça par écrit pour vous. Voilà, et puis il y a aussi le site internet, hein, vous pouvez retrouver les enregistrements avant les réunions, comme ça vous vous remettez dans le bain. Sinon, si je recommence depuis le début, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup à résumer. Donc je vais reprendre juste à partir de la dernière réunion, ce qu'on avait dit. Voilà. Est-ce que, toutefois, peut-être pour donner un tableau rapide, en quelques mots. Est-ce que quelqu'une, ici, voudrait dire ce qu'il a le plus marqué, impacté, le plus marqué depuis le début, depuis qu'on a commencé ces réunions, cette saison en septembre? Est-ce qu'une de vous veut, ou plusieurs même, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, impacté, que vous avez retenu particulièrement depuis le début? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'était? Tu le sais. Alléluia. Oui, on avait rappelé ça, oui. Tu le sais, cette foi-là qui s'abandonne. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? S'approprier la promesse. On va continuer là-dessus. Oui. Amen. Oui. Oui, Dieu nous ordonne d'être puissant. C'est ça. Alléluia. Tout est dit presque. Tout est dit presque. Merci Marie-Clotilde. Une dernière sœur, une dernière amie. Oui. 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 Bienvenue à vous.
Oui. Je n'ai pas à demander à Dieu de résoudre mon problème. Mais il m'appartient de parler directement à mon problème et de lui commander de fuir. Et je pense que
ça l'est, oui. Merci, madame. Soyez la bienvenue. Oui, c'est ce dont on va s'entretenir ce soir avec le Seigneur, ensemble. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alléluia. Donc la dernière fois, le sujet de la dernière fois, c'était effectivement s'approprier la promesse, et on a commencé à aborder le sujet, mais ce n'était pas fini. Il faut poursuivre là-dessus, c'est ce que nous faisons ce soir. Donc, on continue là-dessus. Souvenez-vous que Dieu nous a déjà conduits depuis le début dans le vouloir, dans le voir, nous avons vu, nous voyons. Dieu nous révèle les choses, il nous montre notre situation, nos besoins, et nous les reconnaissons avec honnêteté, dans la vérité. Et il nous conduit aussi, à un moment donné, dans cette foi qui a été évoquée tout à l'heure par... j'ai oublié ton prénom, Victoria. Ouais, cette foi qui dit « Seigneur, tu le sais », cette foi qui n'a que Dieu et rien d'autre. En fait, c'est ce cœur-là que Dieu... que Dieu façonne. Il nous emmène dans cet état-là. C'est pas nous qui le faisons cela. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, on ne peut pas inventer cet état-là en fait. Ça vient vraiment de l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui le fait, qui nous conduit là, à ce stade-là. Donc voilà, Dieu nous a déjà conduits dans toutes ces étapes. Alors à présent, oui, je crois dans cette promesse qu'on a reçue, ce passage d'Ézéchiel qu'on a lu maintes et maintes fois maintenant, et qui nous dit qu'il va nous restaurer, qu'il va nous revêtir de chair, de peau, de nerfs. Hein, souvenez-vous, cette promesse-là, c'est la promesse de la restauration de notre être tout entier, notre âme, notre corps, et même notre esprit pour certaines d'entre nous, a été atteint par des choses difficiles, mauvaises. Donc cette promesse, Dieu nous l'a donnée, et nous la croyons, n'est-ce pas ? Est-ce que vous la croyez ? Est-ce que vous croyez que Dieu a fait cette promesse ? Dans sa parole, oui, mais est-ce qu'il l'a faite pour nous ? Oui, il l'a faite pour nous qui sommes ici présentes ce soir. Alors, si je crois cela, qu'est-ce que je fais maintenant ? Si je crois, qu'est-ce que je fais ? Oui ? Tu veux bien me donner cette bouteille d'eau, s'il te plaît ? J'ai très soif. Hein ? Est-ce que je crois que Dina me donne cette bouteille d'eau ? Oui. Je crois qu'elle veut me la donner, vraiment, je suis sûre. Qu'est-ce que je fais, Dina ? Je prends. Ben oui. Puisque j'ai cru, j'ai vu, j'ai cru, nous voyons en esprit que Dieu nous a fait cette promesse. Et nous le croyons, c'est évident. Je vois la bouteille tendue vers moi. Qu'est-ce que je fais ? Je prends. Parce que c'est à moi. Merci, Dina. C'est à moi. Donc je prends, je m'approprie, je prends, c'est à moi. Dieu me l'a donné, je le prends. Voilà comment je démontre ma foi, comment je la prouve. En prenant ce que Dieu me donne, c'est ça démontrer la foi. C'est prendre, c'est s'approprier. Oui, mais spirituellement, comment je fais ? Pour la bouteille, c'est facile. Je tends la main, je prends, mais... Comment je fais pour les promesses qui ne sont pas palpables, que je ne peux pas toucher, prendre avec mes mains ? Comment est-ce que je les prends ? Oui, par la foi, mais concrètement, comment je prends ? Comment on fait pour s'approprier les promesses par la foi ? Comment on fait pour les prendre, ces promesses ? Pour se saisir, comme on dit si souvent dans notre jargon chrétien, il faut que tu te saisisses. Oui, mais comment je saisis la promesse ? Je vais vous dire un grand secret que beaucoup d'entre vous connaissez. Les choses que nous attendons, les choses concrètes, dont nous attendons la réalisation visible, les choses que nous allons pouvoir toucher, voir, vivre, dont nous allons pouvoir jouir, ces choses que nous demandons à Dieu, ces promesses dont nous attendons l'exaucement concret qui va se matérialiser devant nos yeux, ces choses-là, nous les prenons dans l'invisible. C'est dans l'invisible que nous les prenons. Ces choses vont devenir visibles, mais pour qu'elles deviennent visibles, nous allons les prendre dans l'invisible. C'est là que nous les prenons. C'est par l'esprit que nous les prenons. C'est par l'esprit que nous les prenons. C'est en esprit que nous les prenons. On les prend en esprit, les promesses. On ne se contente pas de croire que Dieu a fait la promesse et qu'elle va se réaliser. Bien souvent, Dieu réalise ses promesses sans que nous ne fassions rien aussi. Mais vient un moment où Dieu nous demande notre part. C'est de prendre, comme j'ai pris la bouteille tout à l'heure dans les mains de Dina, qui me la tendait. Parce que la promesse, elle est d'abord dans le cœur de Dieu à l'origine. Or, Dieu est esprit. Donc la promesse aussi, elle est d'abord esprit. Elle est esprit avant de se matérialiser, la promesse. Vous comprenez ? La promesse que Dieu nous fait, elle est d'abord esprit. Dieu est esprit. Elle est dans son cœur. Elle existe en lui, cette promesse. Elle est esprit. Donc nous, c'est en esprit que nous la prenons. Parce que la promesse est esprit. D'abord. Ensuite, elle se concrétise et nous la voyons. D'accord ? Dans le passage auquel nous nous attachons depuis le début, Dieu nous enseigne comment faire. On avait commencé donc à nous pencher dessus. Vous vous souvenez, Ézéchiel 37, versets 4 et 5. Il me dit, donc ce passage intervient pour rappel au moment où, après que le Seigneur ait montré à Ézéchiel la vallée des ossements desséchés, qu'il en ait fait le tour, qu'il ait vu, puis qu'il ait été brisé par ce qu'il a vu, par cette scène de dévastation, qu'il ait été vraiment profondément meurtri par ce qu'il a vu et brisé. Et là, cette foi pure qui émerge. « Seigneur, tu le sais. Crois-tu que ces eaux pourront revivre ? Crois-tu ? » demande le Seigneur à Ézéchiel. « Seigneur, tu le sais. » Ézéchiel, là, il est vraiment dépouillé, il est nu, il est un instrument, il est prêt entre les mains de Dieu, il est prêt. Il est prêt. Et là, le Seigneur sait qu'il est prêt. Le Seigneur sait qu'il est prêt dans son cœur. Et c'est là qu'il lui dit ce qu'il doit faire. Il me dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur. » Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. N'est-ce pas intéressant ici de voir qu'il dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur ». Il ne dit pas juste « dis ceci » ou « dis cela ». Il ajoute « prophétise et dis ». N'est-ce pas ? Prophétiser, ça veut dire annoncer d'avance quelque chose que Dieu a déjà arrêté, de la part de Dieu. Annoncer d'avance quelque chose que Dieu a arrêté. Dire de la part de Dieu, proclamer de la part de Dieu, annoncer. Donc, il ne s'agit pas ici de répéter ce que Dieu a dit, il s'agit de prophétiser. C'est-à-dire que la personne qui prophétise, elle est remplie par cette pensée, elle est habitée par ce qu'elle dit. Elle ne répète pas simplement, mais elle est remplie de ce qu'elle dit. Et c'est le cas là pour Ézéchiel. C'est cela, prophétiser. Donc dans ce passage, Dieu donne une promesse, une merveilleuse promesse. Il a fait la promesse. Que se passe-t-il maintenant ? Va-t-il l'accomplir ? Non. Non, il ne l'accomplit pas. Au lieu de cela, il donne un ordre. Il donne un ordre. Ouvre ta bouche, prophétise sur les eaux desséchées. Ézéchiel doit remplir sa part. Il doit remplir sa part. Il doit faire comme moi tout à l'heure quand j'ai tendu la main pour prendre la petite bouteille d'eau. Ézéchiel doit faire cela. Il doit se saisir, s'emparer de la promesse. Alors nous avons vu la dernière fois que des questions se posent face à cela, notamment la question du pourquoi. Pourquoi faut-il prophétiser ? Pourquoi faudrait-il que moi j'ouvre la bouche et que je dise la parole de Dieu ? J'annonce la parole de Dieu alors que Dieu a fait la promesse, qu'il est tout puissant pour l'accomplir. Hein ? Pour quelle raison Dieu veut-il cela ? Parce que Dieu veut cela, c'est lui qui le demande. Au lieu de faire la chose qu'il a dite, il se tourne vers moi, vers nous, vers Ézéchiel, pour que nous prophétisions. Pour quelle raison ? Seigneur, tu n'as pas besoin de moi. Tu es tout puissant. Ta parole ne dit-elle pas, tu dis et la chose arrive ? Pas vrai ? Tu dis et la chose arrive ? Oui, c'est vrai aussi. Mais la parole de Dieu, elle s'interprète à la lumière de la parole de Dieu, vous savez. On ne prend pas un seul verset pour en faire une vérité établie, rigide. La parole de Dieu s'interprète à la lumière de la parole de Dieu. Et le Seigneur dit aussi qu'il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Oui, la chose arrive et elle arrivera. Nous avions vu la dernière fois en réponse à ce pourquoi qu'il y avait un principe spirituel là à respecter simplement. Ce que je crois, je le confesse déjà. Première réponse à cette question, pourquoi ? Pourquoi dois-je prophétiser ? Parce que ce que je crois, je le confesse de ma bouche. Je le confesse de ma bouche. Si tu crois, tu confesses de ta bouche. Et tu seras sauvé, hein, dit la parole. Pourquoi faudrait-il confesser de ma bouche ? Je crois déjà, je ne suis pas sauvée si je crois. Mais oui, mais confesse de ta bouche. Parce que c'est un principe spirituel. Notre langue est le gouvernail de tout notre être, nous dit Jacques. Hein ? Donc, notre langue doit refléter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ainsi, c'est un principe spirituel. Et nous avions cité ce verset, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Souvenez-vous, la vie et la mort. Je dispose de ce pouvoir. J'ai reçu ce pouvoir que Dieu m'a donné. Vous savez, Jésus, qui s'était incarné dans l'humanité, lui, fils de Dieu, savait, lui qui est le Verbe éternel, dans le Père, il savait le pouvoir de la langue. Et il pesait ses paroles. Chacune de ses paroles était pesée. Et j'ai toujours été frappée depuis même ma jeunesse, avant même de devenir chrétienne, par cette phrase qu'il disait régulièrement, le Seigneur Jésus, quand il parlait « en vérité, je vous le dis ». Là, le Seigneur pèse ses paroles. Il utilise sa langue, il utilise la parole. Il est la parole, je vous le dis. Voyez, le Seigneur pesait chacune de ses paroles. Et il savait qu'il avait un pouvoir, que lorsqu'il parlait, c'était une puissance. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Voilà. Et nous, nous sommes créés à son image. Et nous aussi, nous devons utiliser ce pouvoir qui nous a été donné, selon le Seigneur. Ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse à cette question, pourquoi ? Simplement parce que ça répond à l'attente de Dieu que nous lui obéissions. Que nous lui obéissions. Dieu veut qu'on lui obéisse. Il demande quelque chose, il veut qu'on lui obéisse. Nous ne lui obéissons pas parce que nous répétons ce qu'il a dit, encore une fois, parce que la véritable obéissance, ce n'est pas un vernis extérieur, ce n'est pas l'apparence de faire ce qu'on nous demande de faire. La véritable obéissance, elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur, la véritable obéissance. Ça, c'est l'obéissance parfaite. Il y a une forme d'obéissance qui est « j'ai pas envie, mais je le fais quand même ». Oui, je fais l'acte qu'on m'a demandé. On m'a demandé quelque chose, je le fais, j'ai obéi. Mais l'obéissance que Dieu attend, celle qui lui est agréable, c'est cette obéissance parfaite qui vient de l'intérieur. Quand je suis portée par une conviction et que j'agis, Dieu veut qu'on lui obéisse de cette façon. Voilà. Parce que la pensée de Dieu, je la fais mienne, je l'intègre, je l'assimile, elle devient mienne, et c'est de l'abondance du cœur à ce moment-là, parce que mon cœur est pris, mon cœur est saisi, mon cœur est convaincu, touché, j'ai cette conviction en moi qui me porte et je parle. Donc cette conviction en moi va faire sortir un flot de ma bouche. Ça va être naturel, je vais parler de ce que j'ai dans mon cœur. C'est de l'abondance du cœur, ce qui bouillonne ici dans mon cœur, que ma bouche parle. Ça veut sortir. Quand vous avez quelque chose qui est très important dans votre cœur, vous n'avez qu'une envie, c'est de le dire, n'est-ce pas ? Vous n'avez jamais ressenti ça ? Quand vraiment vous apprenez une très bonne nouvelle, par exemple, quelque chose de très important que vous voulez partager, il faut que ça sorte quelque part. Il faut même que vous vous reteniez parfois pour ne pas parler à tort et à travers, parce que ça veut sortir. C'est de cette abondance que je vous parle là. Il y a une abondance dans le cœur. La bouche veut parler. C'est comme si vous étiez une trompette et quelqu'un souffle dedans. Et il y a un souffle là, ça va produire un son, c'est obligé. Il ne faut pas faire autrement. C'est ça. C'est cette obéissance-là. Et vous savez, cette obéissance-là, ce n'est pas une contrainte. Quand Ézéchiel a prophétisé, ce n'était pas une contrainte pour lui. Il était comme ça, de l'abondance de son cœur, sa bouche a parlé, il a prophétisé. Ce n'était pas une contrainte. Au contraire, c'était agréable pour lui. Je publie avec ma bouche tout ce qui est sur le cœur de Dieu et qui est pareillement sur mon cœur. Je publie avec ma bouche ce qui est sur le cœur de Dieu, cette promesse, je la publie avec ma bouche, elle est pareillement sur mon cœur maintenant. Dieu me l'a communiquée, alors elle va sortir de ma bouche. Mais troisième réponse, le plus important que nous avions vu la dernière fois, toujours par rapport à ce pourquoi je dois prophétiser, c'est parce que Dieu veut que je fasse comme lui. Dieu veut que je fasse comme lui. Comme lui, comme lui. Dites-moi, commander, c'est le propre de qui ? Exercer l'autorité, c'est le propre de qui ? Qui est celui qui est tout-puissant? Qui est celui qui règne? Alléluia, c'est le Seigneur. Celui qui domine, qui règne, c'est le Seigneur, c'est lui. Eh bien voilà, comme il fait, il veut que je fasse. Comme il est, il veut que je sois. Comme il est, il veut que je sois. Et comme il fait, il veut que je fasse. C'est son désir. De toute éternité, c'est son dessein éternel. Il nous a d'abord créés à sa ressemblance et ensuite il a projeté de placer la vie de son Fils en nous pour que nous lui soyons semblables, semblables à son Fils. Dès le départ, il a toujours eu ce dessein, ce but, ce désir, que nous soyons comme lui. Soyez saints comme je suis saint. Le Seigneur veut que nous soyons comme lui, il veut que Christ croie en nous. Il veut en fait se répandre en nous, tout simplement. La parole nous le dit, dans un verset à l'Épître de Romains, dans l'Épître de Romains, au chapitre 8, 29, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Hey. Des frères nés d'un même Père, l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu nous ordonne d'être puissants. Oui, c'était... c'est pas grave. Tu vois, j'ai un petit peu inversé au niveau des diapos. Excuse-moi, Marido. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu se permet de nous dire dans les psaumes, j'ordonne que tu sois puissant. C'est pour ça qu'il se permet de nous dire ça, j'ordonne que tu sois puissant. C'est choquant lorsque vous lisez ça quand même. Dieu nous ordonne d'être puissant. Oui, c'est pas si facile, Seigneur. Toi, tu es puissant, mais moi, mais je te l'ordonne, dit le Seigneur. Je te l'ordonne parce que j'ai tout accompli pour ça. Parce que comme je suis, tu seras. Je te donne tout ce que j'ai. Je suis ta source. Je suis ta source. Tu es mon enfant. Tu es mon héritier. Tout ce que j'ai, je te le donne. Ainsi, je t'ordonne d'être puissant parce que moi, je suis puissant. En tant que mon fils, ma fille, tu l'es toi aussi. C'est cela le plus important. Le Seigneur veut nous enseigner dans ce passage d'Ézéchiel. S'il demande à Ézéchiel de faire ça, c'est pour que Ézéchiel fasse comme lui. Qu'il dise la parole de l'Éternel. C'est comme si le Seigneur l'utilisait comme un clairon, si vous voulez. Comme un clairon, comme une sorte d'écho de lui. Ouais. Nous parlons ici vraiment de notre identité en Jésus-Christ. Ce que nous sommes, qui nous sommes, si je m'approprie les promesses de Dieu, si je m'en empare, si je les prends, si je prophétise comme Ézéchiel, non seulement je vais être exaucé, être restauré, être guéri, délivré, mais en plus, je suis en train de confirmer au Seigneur, de dire au Seigneur, oui, je suis vraiment ta fille. Je suis vraiment ta fille. Non seulement mon problème va être réglé, parce que le Seigneur va exaucer sa promesse, mais en plus je suis en train de satisfaire profondément le cœur de Dieu parce que je lui dis, je te confirme Seigneur, que oui, je suis vraiment ta fille. Je prends tes promesses, je suis vraiment ta fille en vérité, et je le lui démontre de cette façon. Je sais qui je suis, Seigneur. Je sais qui je suis. Et ça, ça fait plaisir au Seigneur, c'est ce qu'il veut. Notre identité en Jésus-Christ. Conclusion, Dieu ne veut pas seulement résoudre nos problèmes. Il ne veut pas seulement nous restaurer. Il veut nous enseigner au travers de ce passage à savoir qui nous sommes. Qui êtes-vous? Mes sœurs, mes amis, qui êtes-vous? Si vous vous êtes engagés dans le Seigneur, je parle à celles ici qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se sont engagés avec lui. Qui êtes-vous ? Oui, on le dit souvent. Il faut le vivre, en être consciente vraiment. Demandons au Seigneur de nous révéler vraiment ce statut, cette identité, et de remplir cette identité. Il ne s'agit pas seulement de le savoir, mais d'exercer ce statut de fille, de le vivre. Ça a des conséquences. Ça emporte des conséquences, comme celle de prophétiser, de s'emparer, de se saisir, de s'approprier, de prendre. Une fille prend ce qui est dans la maison de son père. N'est-ce pas ? Alléluia. Bon, et nous avions ensuite posé une autre question la dernière fois, celle du quoi. Mais quoi prophétiser ? Qu'est-ce que je dois dire ? Parce que bien entendu, nous ensuite, ici présentes, nous allons appliquer à nos vies personnelles, dans nos situations personnelles, dans nos conditions personnelles, à nos problèmes et nos besoins personnels. Nous allons appliquer cela. Bon, nous avons identifié nos problèmes, en tout cas une partie, ce que Dieu a commencé à nous révéler. Mais qu'est-ce que je dois dire par rapport à tel problème ? Quelle parole ? Comment je fais concrètement ? Je veux bien faire tout cela, mais comment ? Et quoi surtout ? Eh bien, dans ce domaine, je dirais que le maître, le guide, celui qui va nous conduire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il faut nous en remettre à lui. Alors, il y a des choses que nous savons déjà. La parole de Dieu, nous l'avons. Nous avons la Bible. Nous connaissons même des versets. Certaines en connaissent par cœur, je suis sûre. Nous connaissons des versets et nous savons que Dieu a dit certaines choses qui peuvent s'appliquer à certaines de nos situations. Sous ton contrôle, Dina, on peut appeler ça les paroles logos, le logos de Dieu. Hein, qui est écrit, qui est à notre disposition. C'est la volonté générale de Dieu que nous trouvons dans sa parole, dans la Bible. Nous connaissons ces versets, ces passages. Nous pouvons les prendre et nous les appliquer. Nous pouvons commencer à faire cela. Si nous n'avons pas de révélation particulière du Saint-Esprit concernant notre problème, si nous n'avons rien de spécial que nous avons reçu, mais cherchons dans la parole de Dieu, et nous allons trouver une parole qui s'approprie à nous, qui est appropriée, adaptée. Et nous allons commencer comme ça, la volonté générale de Dieu. Comme tu l'as dit, Marie-Clotilde, la parole est là. Si la parole existe, c'est que la victoire existe. Appuyons-nous sur la parole de Dieu avec confiance. Donc il y a cette parole logos qui est à notre disposition. C'est la volonté de Dieu d'une façon générale. Elle est vivante pour nous. Par exemple, pour lutter contre la timidité. Je vais donner des exemples forcément personnels, puisque c'est mon vécu, hein, je ne peux pas puiser dans votre vécu, donc je puise dans mon vécu. Moi, je me souviens que quand j'ai été nommée pour la première fois et que j'ai dû, pour la première fois, entrer dans un amphi pour enseigner, puisque je suis enseignante à la faculté de droit, je venais d'être nommée, je n'avais jamais fait de cours dans un amphithéâtre, et mon tout premier cours, je me souviens encore, mon tout premier cours, 270 étudiants. Alors que je n'avais eu jusque-là que des petites classes, bon, rien à voir. Mais la timidité, oui, j'avais quand même le trac, la timidité s'emparait de moi. Eh bien, j'ai trouvé dans la parole de Dieu ce passage qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » De force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné. J'ai dit « Seigneur, tu m'as donné un esprit. » D'amour, de force, de sagesse. Tu me l'as donné, je l'ai en moi. Je n'ai pas un esprit de timidité. Je rejette la timidité parce que je ne l'ai pas. Ce que j'ai, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et je me suis dit, mais oui, je vais les aimer. Je vais les aimer. Ma force, c'est que je vais les aimer. Et que je vais vraiment déployer la sagesse de Dieu pour eux. Au lieu de penser à moi, en fait, cette parole m'a tournée vers les étudiants. Et ça a tout changé. Ça a été un cours formidable. Vraiment formidable toute l'année. Voilà un exemple, parole logos, pas eu de révélation. J'ai pris la parole, je me la suis appliquée. Ce n'est pas un esprit de timidité. 1 Timothée 1,7. Autre exemple, lorsqu'on ne sait pas se diriger, lorsqu'on a une décision à prendre, qu'on ne sait pas dans quel sens on doit se diriger. On a peur de commettre une erreur, surtout pour des décisions importantes. Qu'est-ce que je dois décider, Seigneur ? Quel est le bon chemin à prendre ? Je ne sais pas. Trouver la volonté de Dieu, savoir où aller, la crainte de se tromper, la crainte de faire une erreur. Vous avez déjà éprouvé ça ? C'est terrible, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est angoissant ? Angoissant, surtout pour des questions comme le mariage, par exemple. C'est angoissant. Et si je me trompais ? Ou un travail, ou un déménagement, je ne sais. Eh bien, à chaque fois que j'ai éprouvé ce type d'angoisse-là, là encore, parole logos, j'ai pris ma Bible. Le Seigneur dit dans sa parole, Jean 16, 13, je vous donne des exemples pour que vous voyez comment on fait. Jean 16, 13 dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira, il me conduira, Seigneur, tu me conduiras dans toute la vérité. Tu me conduiras. Mais si je n'arrive pas à entendre ta voix, Seigneur, si je n'arrive pas à entendre ta voix, c'est pas que tu veux pas me conduire, toi tu fais tout. Mais moi, si c'est moi qui n'entends pas ta voix, c'est pas ta faute, Seigneur. Toi tu me parles, tu me conduis, mais moi. Là encore, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je me suis répété ces paroles dans ma vie plusieurs fois. Je me suis repassé ces paroles. Je les ai dites à mon âme, je les ai dites à mon cœur, pour qu'ils cessent de trembler devant les choix que j'avais à faire. Et le Seigneur a toujours été fidèle. Mes brebis, elles entendent ma voix. Alléluia, combien c'est vrai. Et puis il y a psaume 32:8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Celui-là, on le connaît aussi, hein. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Combien de fois il m'a rassurée. Et j'ai dormi en paix. J'ai dit, oui Seigneur, tu es vraiment mon père. Tu me conduiras, tu me conseilleras. Voilà, pourquoi est-ce que je m'inquiète? Voilà, les paroles logos sont là, elles sont pour nous, elles sont à notre disposition. Utilisons-les. Il y a aussi les paroles spéciales, spécifiques que Dieu nous donne, qui correspondent à une situation, à une circonstance particulière. Là, ce n'est pas la volonté générale de Dieu, mais c'est la volonté particulière de Dieu. La volonté particulière de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la volonté générale de Dieu. C'est ce qu'on appelle les paroles réma. On appelle parfois ces paroles les paroles réma. Ce sont les paroles révélées, qui correspondent donc à une situation particulière que nous révèle le Saint-Esprit dans un moment particulier. Le Saint-Esprit, il aime à travailler avec nous au cas par cas, vous savez, au cas par cas. Il nous prend au cas par cas et il nous donne des paroles appropriées à notre cas, à notre situation. Donc vraiment, je vous encourage à rechercher ces paroles-là, ces paroles réma, rechercher vraiment la direction particulière du Saint-Esprit. La sagesse particulière du Saint-Esprit. Seigneur, tu as quelque chose à me dire. Tu as une pensée là-dessus. Quelle est ta pensée là-dessus? Je suis prête à le recevoir. Vraiment, ouvrons nos cœurs à cela. Lorsque nous sommes devant une difficulté, cherchons ces paroles particulières, ces rémas de Dieu. C'est très important. Alléluia. Exemple encore, parce que c'est toujours bon les exemples. Encore un exemple personnel. Lorsque je me suis convertie au Seigneur Jésus, j'ai eu à cœur tout de suite que mes parents également reçoivent le Seigneur et soient sauvés. Et j'ai commencé à prier pour eux, pour leur salut. Et j'ai reçu une parole particulière pour eux. Parce que on peut prier pour les âmes d'une façon générale, mais chaque cas est différent. Vous savez, les oppositions spirituelles sont différentes en fonction des personnes pour le salut de qui vous priez. Et mes parents, il y a une forte résistance spirituelle, un très puissant aveuglement spirituel, très puissant. Le Seigneur m'a révélé que les concernant, seule la lecture de la parole de Dieu, concernant particulièrement ma mère, seule la lecture de la parole de Dieu, la ferait plier le genou devant le Seigneur. Il me l'a dit. Et comme par hasard, Ma mère n'a jamais voulu lire la parole de Dieu. Non pas par opposition à la Bible, à la religion chrétienne, enfin à la foi chrétienne. Oui, Eva, c'est formidable, tu es chrétienne, elle est vraiment tout à fait d'accord, je veux dire, mais elle me dit, je ne suis pas prête. Depuis 20 ans, je lui ai offert la Bible, je ne suis pas prête. Je vais la lire, oui, je veux la lire, mais je ne suis pas prête. Voyez ? Et le Seigneur m'a dit, c'est quand elle lira que je ferai mon œuvre en elle. C'est ma parole. Mais il y a une forte résistance. Et ces derniers mois, elle a commencé à lire. Alléluia, il se passe des choses merveilleuses. Et le Seigneur m'avait donné cette parole bien précise qui dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? J'ai reçu ces paroles pour ma mère précisément. C'est une parole réma. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Qu'est-ce que je fais donc avec cette parole? Lorsque je prie pour eux, lorsque je prie pour ma mère en particulier, je m'aligne sur la pensée révélée de Dieu. Je m'aligne. Je sais que le problème est là. Et je prophétise que la parole de Dieu brise, que la parole de Dieu est un feu dans son cœur. Je prophétise ces choses. Je peux développer autour de ça. Prophétiser, c'est pas répéter. Je peux développer parce que le Seigneur m'inspire à ce moment-là une prière. Dans cette lignée-là, dans cette pensée. Voilà. Je prophétise sur ma mère depuis des années. Sur cette parole réma. Et je sais que je suis dans le vrai. Je le sais. Ça fait 20 ans pourtant. Mais je sais que je suis dans le vrai. Alléluia. Voilà comment nous faisons. Donc vraiment, soyons à l'écoute de ces paroles-là. Parfois, Dieu va nous donner une parole réma. Parfois, nous ne l'aurons pas. Peu importe, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Donc, commençons avec la parole logos. Si nous n'avons rien, commençons. Commençons à nous appuyer dessus. Et souvent, vous savez, c'est en chemin que vient une provision spéciale. Vous commencez, vous priez et la provision spéciale arrive. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien de particulier. Commencez par la foi, appuyez-vous sur la parole logos. Le reste viendra. Le Seigneur se saisit de ce moment de prière et dans la marche, on reçoit la vision, on reçoit la provision, bien souvent. Maintenant, nous en arrivons vraiment au concret du sujet de cette soirée. Donc, comment ? Le comment prophétiser ? Comment ? Quoi ? Nous avons la réponse. Quoi ? Nous avons la réponse. Comment ? Comment je fais ? Déjà, on a eu des éléments de réponse au début de cette soirée par la bouche de certaines de nos sœurs ici présentes. Alors, puisque justement ça a été déjà un petit peu expliqué au début de la réunion, je vais aller droit au but. Je ne sais pas si certaines d'entre vous étaient présentes aux réunions d'évangélisation de David Leroux au mois de mai 2014. Mais en tout cas, moi je sais avoir été présente et avoir entendu David Leroux nous expliquer justement que nous avions à parler à notre montagne. « Parle à ta montagne », avait-il dit. Et donc j'ai été rechercher le verset dans les évangiles. Matthieu 11, 23, c'est Jésus-Christ qui parle. Je vous le dis en vérité. J'aime ça, vraiment. J'aime la façon dont parle le Seigneur. Je vous le dis en vérité. Le Seigneur est digne, sa parole est vraie. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Dans les psaumes, il est dit, psaume 33, tu dis et la chose arrive, n'est-ce pas? Il est parlé de qui ici? Du Seigneur. Que dit Jésus-Christ? S'il ne doute point en son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, donc nous aussi, ce que je dis arrive, pas vrai? Comme le Seigneur, qu'il croit que ce qu'il dit arrive, ce que je dis arrive. Est-ce que c'est possible ça? C'est possible ça pour nous? Ce que je dis arrive? Oui, c'est possible. Comme le Seigneur. C'est le Seigneur qui le veut. Ce pouvoir, c'est lui qui nous le donne. C'est lui. Jésus-Christ nous parle ici de l'autorité spirituelle. De l'autorité spirituelle dans ce passage. Vous vous souvenez peut-être aussi de cette image qui nous a marqué pour certains, utilisée par notre frère Ulrich dans un ou plusieurs de ses messages, le gendarme et son ministre. Certaines d'entre vous étaient là, le gendarme et son ministre. Le gendarme qui, effectivement, devant une infraction, où il doit interpeller quelqu'un, ne téléphone pas à son ministre pour lui demander la permission ou pour demander à son ministre de venir, encore mieux, le faire pour lui. Ministre, venez, il y a un problème. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu le mandat, il a l'autorité, le ministre, il est occupé à autre chose, il est tranquille, il dort sur ses deux oreilles, il sait que son fonctionnaire, son agent, va faire le travail pour lui, en son nom et pour son compte. Et c'est ce qu'il fait. Ça, c'est très parlant. C'est très parlant. Donc, ce que nous voyons là, très clairement, c'est que, effectivement, nous avons l'habitude, en tant que chrétiens, nous avons l'habitude de demander à Dieu. Et ce n'est pas mauvais de demander à Dieu, vous savez. Ce n'est pas mauvais, la Bible aussi nous l'enseigne. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Oui, c'est vrai, ce n'est pas mauvais de demander, c'est même bon. C'est bon de demander. Si vous demandez des choses à votre Père, voilà, le Seigneur plusieurs fois utilise ce terme, demander. Nous qui sommes mauvais, nous donnons des bonnes choses à nos enfants, mais votre Père vous donnera si vous demandez, voilà. Oui, demandons des choses. Mais demander, ce n'est pas tout. Ce n'est pas la seule façon d'obtenir. Ce n'est pas la seule façon d'obtenir. Et là encore, il faut nous laisser guider par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Il y a certains cas où il ne faut pas demander. Vous voyez ? Dans certains cas, on ne demande pas. On fait. On prend. Dans d'autres cas, on demande. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes, ça dépend de où nous en sommes, de notre âge spirituel aussi. Un bébé qui vient de naître dans la foi, on ne va pas lui demander d'exercer l'autorité spirituelle. C'est un bébé, il demande. Que font les bébés ? Celles qui ont eu des bébés, que font-ils les enfants ? Ils demandent. Ils demandent à manger, ils demandent tout. C'est rare qu'ils fassent eux-mêmes. Au bout d'un moment, ils apprennent à faire eux-mêmes. Mais ils demandent, qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman ? Maman, donne-moi, papa, donne-moi. Voilà. Eh bien, nous aussi, lorsque nous sommes nés de nouveau spirituellement, que nous sommes des enfants, des bébés, nous sommes au lait spirituel. C'est bon le lait spirituel. Nous croissons. Et vient un moment où Dieu va nous amener plus loin. Il va nous amener plus loin. Et le problème, c'est que bien souvent, les années passent et nous restons dans la sphère du demander. Nous restons là parce que nous avons pris l'habitude et aussi parce que nous n'osons pas. C'est un pas à franchir quand même, hein, je veux dire, il y a un pas à franchir. Nous avons aussi des obstacles, il y a des objections. J'ai le sentiment que certains chrétiens pensent que, mais voilà, j'ai la foi, je m'attends au Seigneur. Je m'attends. Pour moi, voilà, je m'attends au Seigneur. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai confiance dans le Seigneur. C'est comme si exercer l'autorité spirituelle, c'était manquer de confiance dans le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire quelque chose de plus alors que Dieu est tout puissant, Dieu est souverain, il va le faire. Je n'ai besoin de rien faire. Ce serait le nec plus ultra de la foi de ne rien faire. C'est une erreur. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit dans sa parole. Le Seigneur fait de nous des filles, des fils, des héritiers, des héritières. À un moment donné, qui reprend le patrimoine ? Ce sont les enfants. À un moment donné, il y a des paraboles là-dessus. Il y a des paraboles. Donc nous n'osons pas dire « je » lorsque nous prions. Hein. Nous n'osons pas dire « je bénis ». Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-la. Oui, amen. Et « je bénis », est-ce que tu peux le dire ? Est-ce que tu peux dire « je te bénis », par exemple ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ça ? Non. Si tu sais d'où vient la bénédiction, si tu sais aussi qui tu es par rapport au Seigneur. Au contraire, c'est bon. C'est bon. Mais nous disons souvent, voilà, Seigneur, fais ceci, Seigneur, ordonne cela, Seigneur, commande cela, Seigneur, empêche, ne permets pas cela. Est-ce que je peux dire, je ne permets pas? Je ne permets pas cela. Est-ce que je peux le dire? Oui, bien sûr. Je ne le permets pas. Je peux le dire moi aussi. À l'instar de mon Seigneur et de mon Père. Parce que je suis dans sa maison. Parce que mon corps est sa maison. Et que je défends ses intérêts. Je ne permets pas ceci ou cela. Je peux le dire. Moi aussi. Parce que j'ai reçu l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Il veut que je sois semblable à lui. Semblable à lui. Le Seigneur nous dit, je t'ordonne de commander dans ce passage d'Ézéchiel. Dans ce passage avec Jésus-Christ. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. C'est un ordre. Je parle à ma montagne. La montagne, ça peut être tout. L'obstacle, le problème, l'épreuve. Ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Je donne un ordre. C'est moi qui donne l'ordre. Et je crois que les seigneurs attestent mes paroles. Je le crois parce que je sais qui je suis. Ce n'est pas parce que je mérite quelque chose. Je ne suis pas meilleure. Je ne suis pas très forte. J'ai pas un charisme, une autorité. Peu m'importe tout cela. Ce que moi je sais, c'est que je suis sa fille et que c'est lui qui atteste mes paroles. C'est lui qui est saint d'autorité. Et je peux dire, parce que je n'ai que Jésus-Christ, mais il est le Fils de Dieu, il a tout accompli pour moi. Je peux dire, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je peux le dire à ma montagne. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il y a des objections, donc il y a des conceptions doctrinales qui sont fausses. Erreur de compréhension de la parole de Dieu. Ignorance de qui je suis. Ignorance de mon identité, je ne sais pas qui je suis dans le Seigneur, je sais que je suis sauvée, que j'irai au ciel, que le Seigneur m'aime, toutes ces choses-là. Amen. Mais tu dois savoir qui tu es. C'est un engagement, c'est ton identité qui change. C'est pas juste que tu as été pardonné de tes péchés et que maintenant, le Seigneur va t'accueillir, va te conduire, va te bénir. Mais c'est toute ta vie qui change, c'est ton projet de vie qui change. C'est ton projet de vie. Qui tu es même, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Il y a un royaume qui t'attend. Ce royaume, c'est le tien. C'est le tien. Alors tu vas régner là-haut, auprès du Seigneur. Commence maintenant à régner. C'est maintenant que tu commences à régner. Tu n'attends pas là-haut. Si tu ne t'exerces pas maintenant, là-haut, tu vas te trouver démuni. Comment on fait pour régner? C'est maintenant que ça commence. C'est ça le règne, c'est ça l'autorité. Alors pourquoi nous avons peur? Quelles sont les autres raisons? Pourquoi est-ce que nous n'osons pas franchir ce cap? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui a déjà fait cette expérience de l'autorité spirituelle? Qu'est-ce qui a déjà... Est-ce que vous, on est entre nous, hein? Il n'y a pas de jugement ici entre nous. On apprend. On ne se juge pas les unes les autres. Qu'est-ce qui connaît ça? Qu'est-ce qui a déjà exercé ça? Moi, je lève la main. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ça. Il y a encore besoin d'avancer dans ces choses. Il y a des obstacles. Il y a la peur aussi. Il y a la peur. La peur de Satan. La peur de l'ennemi. La peur des démons. La peur des représailles. Ouh là là, si je m'avance et que je parle, qu'est-ce qui va me tomber? Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? On a peur, vous savez. Mais c'est vrai. Moi, je sais, je l'ai ressenti, cette peur. À certains moments, je l'ai vraiment ressenti. Je dis, oula, Seigneur, là, oula, oula, là, là, j'ai peur. J'ai peur. Hein? Mais je me souviens de mon identité. Ce n'est pas moi qui m'avance. Vous comprenez, ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ. Lorsque vous vous avancez, ce n'est pas vous, là. Ce n'est pas vous. Vous représentez le Fils de Dieu. Vous représentez celui qui a vaincu, celui qui les a livrés en spectacle. C'est lui que vous représentez. Et les démons, c'est lui qu'ils voient. Si vraiment vous savez qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes. Mais si vous vous avancez imprudemment, attention, effectivement, ça peut être dangereux. Il faut savoir qui on est en Jésus-Christ. Ça, ça doit être établi. C'est pour ça que c'est la base. C'est pour ça que ce n'est pas une recette magique. Ce ne sont pas des formules magiques. Hein. Je dis, je proclame, je prends autorité, je chasse. Si tu fais ça, là, comme ça, sans savoir qui tu es, attention. Attention. Le Seigneur peut te garder à un moment donné parce que ça, c'est mon enfant, ça, c'est ma petite, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais à un moment donné, bing, ça va tomber. Donc, attention. Qui suis-je ? C'est d'abord la base, le commencement, c'est ça. Ensuite, tu exerces autorité. L'autorité, c'est une question d'identité. C'est pas une question de puissance. C'est pas une question d'apparence, de parole, de proclamation. L'autorité, c'est l'identité. C'est la même chose. Christ était celui qui est. C'est pour ça qu'il avait autorité. C'est tout. Est-ce que Christ élevait la voix? Même dans Ésaïe, il est dit que celui-là qui est venu pour libérer les captifs, il n'élevait pas la voix. C'est dit même dans Ésaïe qu'il ne criait pas. Vous vous souvenez de ce passage? Je crois que c'est Ésaïe 60 quelque chose, 61 peut-être. Il n'élevait pas la voix dans les rues. Mais il avait l'autorité. Il était l'autorité. C'est de lui que nous nous réclamons. C'est en lui que nous sommes cachés. Donc quand je fais cela, je dois vraiment là être positionnée. Je me positionne, vous voyez. C'est en mon esprit, je me positionne. Je ne m'avance pas moi, en mon nom. Sûrement pas. Dans le nom du Fils. Le vainqueur. Alléluia. Donc il y a effectivement l'ignorance, il y a l'incompréhension de la parole, il y a la peur, et il y a encore autre chose qui concerne particulièrement les femmes. Et ça, le Seigneur me l'a montré quand j'ai préparé ce message. Qu'il y a des femmes qui ne s'identifient pas du tout à l'autorité. C'est-à-dire que moi, non, ce n'est pas moi. Voilà, elles se disent, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Je peux pas faire ça, c'est pas moi. Moi, je suis douce, moi, je suis timide, je suis paisible, ça me ressemble pas. Non, ce serait artificiel. Détrompe-toi, ça te ressemble. Tu es comme ça, mais tu ne le sais pas. Cette autorité-là, tu l'as. Si tu as donné ta vie au Seigneur, celles qui sont comme ça, qui pensent comme ça, se reconnaîtront. Qui disent, ça me ressemble pas de proclamer, de prophétiser, de prendre autorité, de dire « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer ». Détrompe-toi. Si tu as donné ta vie au Seigneur, tu es comme ça. Tu as reçu cette autorité. Commence à le faire par la foi. Commence à le faire par l'obéissance. Et tu verras que ce qu'il y a en toi va se révéler, va ressortir et va s'exercer naturellement. Même si au début c'est un faible murmure. Même si au début c'est léger, c'est même timide. Même si ce n'est que dans un souffle que tu commences à prier de cette façon, à prophétiser. Commence, s'il te plaît. Commence. Commence. Il faut vraiment, je vous encourage à franchir pour celles qui ne l'ont pas faite, pour celles qui ne l'ont pas fait, je vous encourage à franchir ce pas. Le Seigneur veut vraiment vous emmener et il s'adresse particulièrement à celles qui ne l'ont jamais fait, à s'engager dans cette nouvelle dimension. Il veut, combien de femmes dans cette église sont brisées, sont dévastées, combien de femmes sont vraiment écrasées sous le poids de leur fardeau, combien de femmes souffrent dans cette église, combien de femmes vivent la misère, une vie de misère, combien de femmes sont dans les chaînes, liées, incapables de sortir de cet étau, de cette prison, combien il y en a de femmes, tant et tant. Dieu ne veut plus que les femmes subissent. Il veut qu'elles cessent de subir, il veut qu'elles se lèvent. Qu'elles se lèvent. Tout à l'heure, vraiment ce qui a été apporté par Marido, je crois, dans ce don spirituel, il veut mettre ses os debout. C'est pas encore les os revêtus de chair, de nerfs, de peau. Ce sont les os desséchés. Pour le moment, la restauration n'est pas encore achevée. Mais même dans cet état, alors que tout commence, alors que le problème est encore là, le Seigneur veut que les eaux desséchées se mettent debout là pour prendre autorité, dire maintenant, ça suffit. Cessez de subir. Le Seigneur ne veut pas qu'on subisse. Et il y a une part qui vient de nous. Et même si elle est timide et faible au début, ce n'est pas grave. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. C'est le Seigneur qui le demande. Si le Seigneur nous demande quelque chose, il ne va pas nous livrer dans la jungle, il ne va pas nous laisser. C'est lui qui le fait en nous. Alors allons-y avec nos forces, pas à pas, mais s'il vous plaît, commencez. Commencez. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Et sa parole, c'est elle qui est revêtue de puissance. La parole que vous dites, c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous, ce ne sont pas vos paroles, c'est la parole de Dieu que vous dites. Elle est vie, elle est vivante. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit son effet. C'est lui qui le dit, Ésaïe 55, elle ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Donc c'est sur sa parole, c'est-à-dire sur Christ que vous vous appuyez. Encore une fois, ce n'est pas sur nos forces. Vous ne pouvez que vaincre. La parole de Dieu est vivante. Elle nous assure la victoire. Alléluia. Donc, demander, c'est bon. Mais il n'y a pas que demander. Dans ce passage, d'ailleurs, il est dit « Demandez et l'on vous donnera. » Et ensuite, « Cherchez et vous trouverez. » Et ensuite, « Frappez et on vous ouvrira. » Vous savez, frappez. Il y a un moment donné, il faut frapper. Il faut frapper. C'est vigoureux. Vous voyez, vous frappez. Vous ne demandez pas « S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'ouvrir ?» Non, non, vous frappez. Il y a une autorité là. Ce que vous demandez, vous voulez l'obtenir et vous allez l'obtenir. Demandez, cherchez, frappez, il y a différents degrés. Voyez ? Et le Seigneur veut qu'on grandisse dans ces choses. Il nous y amène, il nous y invite. Encore un ou deux petits exemples. Un exemple, ça suffira. Ces derniers temps, ça fait 2 semaines environ, que je suis traversée de plus en plus par des pensées de accident mortel sur mes proches, moi-même, mon mari, mes enfants, la mort. Mon père est mort quand j'avais 13 ans. Et depuis 2-3 semaines, c'est presque toutes les minutes, toutes les heures dans ma tête, toute la journée, ces pensées comme quoi, voilà, il va arriver malheur à ton fils, il va arriver malheur à ton autre fils, il va mourir, ton mari va mourir. Toutes ces pensées me traversent la tête. Qu'est-ce que je fais face à cela ? Ça commence à bien faire. Parce que ça fait un moment que ça dure. Alors, au début, bon, on laisse de côté, mais au bout d'un moment, ça crée une angoisse quand même, parce que je l'ai déjà vécu, ça. J'ai perdu mon père quand j'avais 13 ans, dans un accident de voiture mortel. Et ça m'a traumatisée quand j'étais jeune. L'ennemi veut se servir de ça aujourd'hui. Il y a des gens que j'aime plus que tout. Mon mari, mes fils. Je ne veux pas qu'il leur arrive malheur. Et le Seigneur veille sur eux, mais l'ennemi sait qu'en moi, il y a une faille. Alors là, qu'est-ce que je fais ? D'abord, je vois qu'il y a une faille, il y a quelque chose à traiter. Parce que si ça vient, c'est qu'il y a une fragilité, là, quelque chose qui n'est pas totalement réglé chez moi. Je le traite avec le Seigneur. Et je cherche dans la parole ce sur quoi je vais m'appuyer pour chasser ces pensées. Voilà. Et je prends autorité sur ces pensées. Je parle à mon âme dans ce cas-là. Je parle à mon âme et je lui rappelle la parole de Dieu, la paix de Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Voilà. Et là, en ce moment, je suis en train de faire ce travail, de chercher justement le chemin, voyez, pour surmonter ce problème qui se présente. Je cherche le chemin. J'ai la parole Logos, je cherche aussi la parole Réma, je cherche aussi ce que le Seigneur veut me montrer dans mon cœur. Mais je sais qu'il y a une issue et je vaincrai. Et je suis contente que ça arrive. Parce que voilà un problème de moins dans ma vie qui était caché, je n'avais pas vu. Tant que je n'avais pas d'enfants, notamment. Maintenant que j'ai des enfants, ah, ça ressort. Très bien, parfait. la bonne occasion pour régler ce problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez vécu des choses comme ça? Où vous avez pu prendre autorité? Est-ce que vous pouvez peut-être donner aussi d'autres exemples de versets, de passages qui, Logos ou Réma, qui ciblent tel problème? Ça peut nous être utile. Hein, peut-être on pourrait même faire éventuellement une liste de versets qui ciblent certains problèmes. Il y a différents problèmes qui sont fréquents hein, chez les uns et les autres. Le rejet, les craintes, la peur de la mort. Il y a des tas de choses. Il y a des versets appropriés pour cela. On verra si on peut faire ça. Pour finir, je voudrais vous donner une image, peut-être même deux images, parce que les images, c'est très parlant en général. C'est très parlant. Donc nous pouvons parler effectivement à la montagne, c'est-à-dire aux problèmes. Nous pouvons parler dans certains cas à l'ennemi, c'est-à-dire aux autorités, aux puissances spirituelles, si nous les discernons, si nous sentons que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et parfois aussi nous parlons à notre âme, parce que c'est notre âme le problème. D'autres fois, nous parlons à notre corps aussi. Ça aussi, ça m'est arrivé. Nous parlons à notre corps. Nous pouvons le faire. Nous sommes établis sur notre corps. C'est nous. C'est à nous que Dieu a confié notre corps, n'est-ce pas? Et nous devons prendre soin de lui. Il est le temple du Saint-Esprit, ce corps. Donc nous avons autorité sur notre corps. Alléluia. La hardiesse viendra, croyez-moi, je répète, hein, pour celles qui n'ont jamais fait le pas, la hardiesse, elle viendra. Une dernière image. Imaginez une jeune fille, puisque nous sommes des femmes ici, une jeune fille dans sa maison qui lit tranquillement un livre dans le salon. Elle est dans la maison de ses parents, cette jeune fille. Et puis, le matin, par la fenêtre, elle voit une bande de garnements qui viennent jouer au ballon et qui piétinent le potager de son père. Qu'est-ce qu'elle fait, cette jeune fille, d'après vous? Elle se lève, elle ouvre la fenêtre, elle dit « Hé là, vous là, dehors! Qu'est-ce que vous faites là, dans notre jardin? Dehors, vous piétinez le potager, dehors !» Et elle chasse les enfants. L'après-midi, le petit frère se blesse, il saigne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme elle a vu faire sa maman. Elle prend la boîte, les pansements, la boîte à soins, elle désinfecte, elle met un pansement, elle soigne, elle console. Ses parents reviennent de l'étage, ils redescendent, ils étaient occupés. Vous croyez qu'ils vont lui faire des reproches? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais dû nous appeler, pourquoi tu... Hein? Mais non, bien au contraire. Ils vont dire, mais... Tu es vraiment notre fille. Nous sommes fiers de toi. Tu as chassé les... Tu as vraiment fait tout ce qu'il fallait, c'est parfait. Et ils vont l'établir sur la maison. Ils vont encore plus l'établir. Jusque-là, ils ne l'avaient pas établi sur la maison. Mais elle a pris l'initiative. Elle a défendu la maison de ses parents. Elle a soigné dans la maison de ses parents, qui est aussi sa maison. C'est elle, en fait, hein, cette maison. C'est elle. Le jardin, c'est elle. La blessure, c'est elle, c'est une partie d'elle. Ça nous parle de nous. Elle a défendu, elle a soigné, elle a pris soin, elle a pris des initiatives, elle a pris autorité. Comme le fait le père, comme il l'aurait fait, elle a fait. Comme m'aurait fait la mère, elle a fait. Est-ce qu'elle a dit le matin, « Papa, viens !» Non, elle a chassé. L'après-midi, avec le petit, elle a fait « Maman, il y a un problème !» Non, elle a soigné. Ces parents-là seront fiers de leur fille. Fiers. Ils diront pas « Tu n'avais pas le droit, mais de quel droit ?» Au contraire, tu es dans ta maison, ma fille. C'est à toi, tout ça. Tu as bien fait. Nous sommes fiers de toi. Et maintenant, tu auras encore plus de responsabilités. Le Seigneur est comme ça avec nous. Non, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, au contraire. Au contraire. Soyons fiers de la maison que Dieu nous a donnée, notre vie. Notre vie. Défendons notre vie. Nous le faisons pour nous, nous le faisons aussi par honneur pour le Seigneur. Ce corps, cet être, cette vie lui appartiennent. Nous ne tolérons pas que des étrangers mettent la main sur nous. Nous ne tolérons pas les étrangers, les voleurs, les intrus, les menteurs. C'est notre maison, c'est la maison du Seigneur. Nous honorons notre Père et nous nous honorons nous-mêmes. Et nous ne permettons pas certaines choses. Donc nous nous levons et nous ne subissons pas. Le Seigneur nous agrée dans ces choses et il nous conduira et il nous apprendra à le faire. C'est lui qui nous revêt de son autorité. Alléluia. Je crois que j'ai dit l'essentiel, je crois. Enfin, il y aurait tellement à dire et puis tellement de passages bibliques encore. Mais si vous souhaitiez en avoir d'autres, parce que j'en ai pris juste quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres hein, sur l'autorité spirituelle. Et notamment, je pense à Éphésiens 6, les armes spirituelles du chrétien. Et il est parlé notamment de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous croyez qu'une épée, ça sert à quoi, dites-moi? Ça sert à quoi une épée? Ça sert à attaquer et à se défendre. Mais c'est surtout le bouclier qui sert à se défendre. L'épée, ça sert à attaquer. Ça sert à attaquer. L'épée, c'est offensif. Avec une épée, on attaque et on conquiert. Avec le bouclier, on se défend. Le casque nous protège aussi. La cuirasse. Mais une épée, c'est offensif. L'épée de l'esprit est à nous, n'est-ce pas? Utilisons la parole. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous dit Éphésiens. Qui est la parole de Dieu? Alors cette parole, logo, cette parole, rhéma, elle doit sortir de notre bouche parce que Dieu la met sur notre cœur. Et elle sortira. Et nous prophétiserons. Et nous vaincrons. Amen. C'est à vous tout ça, mes sœurs. C'est à vous. Alléluia. Les sœurs, les chantres de l'Éternel, les adoratrices qui nous conduisent dans la louange, venez. Alléluia.